Le film, le Titanic, retrace bien les derniers moments du navire. Alors qu'au large de Terre-Neuve, il s'enfonce dans les eaux glacées de l'Atlantique, on l'entend gémir. Entre les explosions, des bruits à la fois grinçants et plaintifs couvrent les cris des passagers qui périssent. La scène est effroyable et poignante, et c'est aussi une bonne description de la fin du royaume de Juda. Son agonie a commencé et rien ne peut plus l'arrêter car sa destruction est décidée par l'Éternel. Je continue de lire dans le chapitre 7 d'Ézéchiel. On sonnera du cor et l'on se tiendra prêt, mais aucun n'ira au combat car ma colère menace cette foule. Au dehors de la ville, c'est l'épée qui sévit. Au dedans, c'est la peste et la famine. Celui qui est au champ périra par l'épée, et celui qui est dans la ville, la peste et la famine le feront succomber. Les préparatifs militaires sont vains à cause de la décision de l'Éternel de détruire Jérusalem et Juda. Je continue plus loin. Ils porteront des habits de toile de sac, et la frayeur les saisira. La honte se lira sur chacun des visages, toutes les têtes seront rasées. Ils jetteront dehors leur argent dans les rues et considéreront leur or comme souillé, car ni l'argent ni l'or ne pourront les sauver au jour de la colère de l'Éternel, ni apaiser leur faim. Ils ne satisferont aucun de leurs désirs, car c'est l'argent et l'or qui les ont fait tomber dans le péché. Ils ont mis leur orgueil dans leur parure magnifique et ils s'en sont servis pour fabriquer des idoles abominables et exécrable. Les marques de deuil et d'affliction sont partout, et à cause de leur grande détresse, les Israélites n'ont plus goût à rien, au point où ils jettent même tous les objets précieux qu'ils ont acquis par cupidité. Ceux qui faisaient leur gloire et avec lesquels ils se fabriquaient les idoles. Je continue. C'est pourquoi tout cela, je le rendrai impur. Je le donnerai à des étrangers pour qu'ils le pillent, comme butin aux méchants de la terre qui viendront le souiller. Je détournerai de ma face et l'on profanera mon trésor. Des brigands y pénétreront et le profaneront. Le temple de l'Éternel est profané et détruit. Toutes les richesses du royaume, dont le trésor du temple, sont pillées par les envahisseurs. Ces événements qui sont arrivés il y a plus de 26 siècles ne sont rien comparés à ceux qui auront lieu quand la grande Babylone commerciale décrite dans le livre de l'Apocalypse sera détruite. La civilisation occidentale dépend du monde des affaires et du succès et des bourses. Les opérateurs, les courtiers, les cambristes portent des costumes à 1 000 ou 2 000 euros pièce. Et les gouvernements s'assurent que les riches s'enrichissent toujours davantage. Mais un jour, tout cela va être mis à plat, descendre en flammes, monter en fumée et être réduit en cendres. Je continue avec le 5e paragraphe de ce passage qui décrit la fin du royaume de Juda. Fabriquez-vous des chaînes, car le pays est plein de crimes et la ville est remplie de violence. Il s'agit à la fois des crimes de sang et des transgressions de la loi. Ceux qui ont survécu au massacre sont déportés. Les captifs sont littéralement conduits, enchaînés, ce qui apparaît clairement dans le livre de Jérémie. Je continue plus loin. Désastre sur désastre viendront les submerger. Il y aura un afflux incessant de mauvaises nouvelles. Ils solliciteront en vain quelques révélations de la part du prophète. La loi fera défaut aux prêtres et les responsables du peuple seront dépourvus de conseils. Le prophète revient au dernier jour du siège de Jérusalem. Les mauvaises nouvelles se succèdent à un rythme rapide. Dans ces circonstances fâcheuses, le peuple s'adresse aux trois sources du pouvoir qui structurent l'État théocratique israélite. Les prophètes, mais ont plus de vision. Les prêtres, interprètes de la loi, mais ils n'y trouvent aucune consolation. Le conseil des sages, qui dirige la nation, mais ils n'ont aucune direction à donner. je finis de lire le chapitre 7. Le roi prendra le deuil, et le prince sera vêtu des habits des temps de malheur. Le peuple du pays aura les mains tremblantes. C'est d'après leur conduite que je les traiterai, et je les jugerai, selon ce qu'ils méritent, et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Toujours le même refrain menaçant. Le jugement que méritent les Israélites idolâtres est tombé. Le royaume de Juda, Jérusalem et le temple sont détruits par Babylone. Ce chapitre est écrit sous forme poétique, mais il n'en est que plus émouvant et déprimant. À le lire, il est facile de comprendre pourquoi ce passage n'est pas l'une de nos lectures favorites. Cependant, il fait partie des Écritures qui sont toutes inspirées de Dieu. Il s'ensuit que, si on veut être cohérent avec ce qu'on dit croire, il faut accorder à Ézéchiel un temps d'écoute suffisant afin d'entendre ce qu'il veut nous dire concernant la gloire, la sainteté et les jugements de Dieu. Nous arrivons au chapitre 8 qui, jusqu'au 11 inclus, raconte une nouvelle vision d'Ézéchiel dans laquelle il est transporté à Jérusalem. Son expérience est identique à celle qu'ont eue plus tard les apôtres Paul et Jean. Dans sa seconde épître aux Corinthiens, et en parlant de lui-même, Paul écrit « Je connais un homme qui a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Était-ce dans son corps? Je ne sais. Ou sans son corps? Je ne sais. Mais Dieu le sait. Je sais seulement que cet homme a été enlevé au paradis et qu'il a entendu des paroles qu'on ne peut pas répéter parce qu'il n'est pas permis à un homme de les dire. Ces événements a eu lieu quand il fut lapidé et laissé pour mort, puis il semble bien que Dieu l'ait ressuscité. Jean aussi a eu une expérience similaire dans le livre de l'Apocalypse, il dit « Je vis une porte ouverte dans le ciel, et la voix que j'avais entendue me parler au début et qui résonnait comme une trompette me dit « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. » À l'instant, l'Esprit se saisit de moi, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un siégeait. » Cette ascension de Jean est une image de l'enlèvement de l'Église quand tous les croyants authentiques seront enlevés de la terre et rencontreront Jésus-Christ dans les airs. Au début de l'Apocalypse, il est souvent fait mention de l'Église, mais après cette expérience de l'apôtre Jean, elle n'est plus mentionnée parce qu'elle est partie pour aller aux noces de l'agneau dans le royaume des cieux. Ici, Ézéchiel est transporté en esprit dans le temple de Jérusalem où il voit d'abord une idole érigée devant la porte du parvis intérieur. Puis, il est le témoin de trois cérémonies païennes, célébrées l'une par les responsables politiques du royaume de Juda, la seconde par les femmes de Jérusalem et la troisième par les chefs des prêtres. Cette première partie de la vision expose l'état moral et spirituel dégénéré de tout le peuple, et c'est aussi l'acte d'accusation qui entraîne la sentence de mort dont l'exécution est décrite dans le chapitre suivant et qui constitue la deuxième partie de la vision. En troisième lieu, le prophète décrit le départ de l'Éternel, où il voit le symbole visible de sa gloire se déplacer successivement du lieu très saint jusqu'au seuil du temple, puis du seuil à la porte orientale du parvis, et enfin, de cette porte, la gloire de Dieu quitte la ville pour aller vers l'est sur la montagne des Oliviers. Les départs successifs de l'Éternel qui s'éloignent progressivement du temple sont entrecoupés de menaces contre les habitants de Jérusalem, ainsi que de promesses en faveur de ceux qui sont exilés. Ensuite, le prophète revient sur terre, pour ainsi dire, et raconte aux captifs tout ce qu'il vient de vivre. Cette révélation, qui est l'une des plus impressionnantes du livre d'Ézéchiel, est facile à comprendre. On y apprend par ailleurs que les Israélites qui sont encore en terre d'Israël se croient supérieurs à leurs compatriotes déportés. Et en plus, ils les méprisent. Quant aux exilés, ils pensent avoir été abandonnés par Dieu et envient leurs frères restés sur le sol de la patrie. Mais par la bouche d'Ézéchiel, Dieu remet les pendules à l'heure en rabattant le caquet des uns et en relevant l'esprit abattu des autres. Je commence de lire le chapitre 8 d'Ézéchiel. Le cinquième jour du sixième mois de la sixième année, j'étais assis chez moi et les responsables du peuple de Juda étaient assis devant moi. Soudain, la main du Seigneur, l'Éternel, tomba sur moi. Nous sommes en septembre ou octobre 592 avant Jésus-Christ, soit un peu plus d'un an après la vocation du prophète. Les responsables sont les chefs de la colonie exilée. Je continue. Je regardais et je vis un être qui ressemblait à un homme. En dessous de ce qui semblait être ses reins, c'était comme du feu, et au-dessus, il y avait comme l'éclat d'un métal. Comme précédemment, le prophète prend bien grand soin de ne pas décrire l'Éternel autrement que d'une manière vague, car ce qu'il voit n'est pas le Dieu lui-même, mais une représentation, une image. Dieu étant esprit, il n'a ni main ni pied comme vous et moi. Cependant, les Écritures utilisent toujours des termes qui se rapportent à nous pour décrire le monde spirituel. Je continue. Cet être tendit une forme de main et me saisit par une mèche de mes cheveux. Et l'esprit me souleva entre ciel et terre et me transporta dans une vision divine à Jérusalem, à l'entrée de la porte du parvis intérieur du temple, celle qui est tournée vers le nord, où se trouve la statue de la provocation, celle qui provoque l'Éternel, qui ne tolère aucun rival. Ézéchiel est transporté dans une vision jusqu'au temple de Jérusalem, où, grâce à un don surnaturel de seconde vue, il voit l'idolâtrie installée. L'idole en question se trouve à l'extérieur du sanctuaire, à l'entrée nord. Elle est appelée statue de provocation ou de jalousie. Une expression empruntée au second des 10 commandements où il dit « Car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux ». C'est à cause de cette jalousie que les prophètes décrivent l'idolâtrie comme un adultère spirituel. L'addition du verbe « provoquer » dans la phrase « qui provoque l'Éternel, qui ne tolère aucun rival » fait ressortir avec force le sentiment d'indignation qu'éprouve l'Éternel à la vue de l'idole. Son identité n'est pas indiquée, mais c'est une statue soit du dieu Tammuz, dont il est question plus loin, soit d'Akhéra ou Astarté, la divinité féminine cananéenne que le très mauvais roi Manassé avait dressée dans le temple et que le bon roi Josias avait enlevée. Je continue. Et voici que la gloire de Dieu d'Israël m'apparut là, exactement comme je l'avais vu dans la plaine. Et il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du nord. Je levai les yeux du côté du nord, et voici qu'au nord de la porte de l'autel, cette statue de la provocation se dressait dans l'entrée. Il me dit encore, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Regarde les pratiques si abominables que les Israélites commettent en ce lieu pour m'éloigner de mon sanctuaire. Mais tu en verras encore de plus graves. Comme les cultes idolâtres ont lieu en présence de la gloire de l'Éternel, ils n'en sont que plus abominables et Dieu est très irrité. Je continue. Puis il me conduisit à l'entrée du parvis et je vis qu'il y avait un trou dans le mur. Ézéchias se trouve maintenant à l'entrée ouest du parvis extérieur. Le trou dans le mur est une petite fenêtre qui donne sur une pièce adjacente dont se servent les employés du temple. Je continue. Et il me dit, « Fils de l'homme, perce la muraille. » Je la perçais, et une porte apparut. Il me dit, « Entre et regarde les horreurs abominables qu'ils commettent ici. » Ézéchiel doit faire une large ouverture dans la muraille afin d'accéder à la porte qui s'ouvre sur la chambre des idoles. Les responsables du peuple passent par une entrée secrète pour venir pratiquer leur culte idolâtre dans la clandestinité. Ézéchiel se trouve quelque part entre ciel et terre. Il a bien percé la muraille et vu le spectacle idolâtre, mais en vision, car ces événements se sont passés à un autre niveau de réalité que celui où nous vivons. Je continue. J'entrai et je regardai, et voici que je vis, dessinées sur la paroi tout autour, toutes sortes de représentations de reptiles et de bêtes répugnantes et toutes les idoles de la communauté d'Israël. Il s'agit de divinités d'origines égyptiennes, que la loi interdit formellement de reproduire, et dont le culte se célèbre dans des lieux très sombres. En adorant les créatures au lieu du Créateur, les Israélites sont descendus tout aussi bas que les nations païennes. Pourtant, les plaies d'Égypte par lesquelles l'Éternel a délivré son peuple des griffes du Pharaon étaient dirigées spécifiquement contre ces fausses divinités qui ornent la paroi. La conduite des chefs du peuple est inqualifiable. D'une certaine manière, ils sont retournés en Égypte afin de s'adonner à l'idolâtrie que leurs ancêtres pratiquaient. Je continue. 70 hommes, responsables de la communauté d'Israël, se tenaient debout devant les idoles. Chacun d'eux avait en main un encensoir d'où s'élevait le parfum d'un nuage d'encens, et Azania, le fils de Chaphan, se trouvait au milieu d'eux. Toute l'élite de la communauté est au rendez-vous. Non seulement ces hommes sont idolâtres, mais en plus, ils se prennent pour des prêtres et agissent comme tels, ce qui augmente d'autant plus leur culpabilité. Chaphan, son père, avait été ministre du roi pieux Josias, et avait œuvré avec lui afin d'extirper l'idolâtrie du royaume de Juda. Et son frère, Ahikam, avait sauvé Jérémie de la mort. Le venin de l'idolâtrie a donc atteint les familles les plus fidèles à l'Éternel. La nation est véritablement corrompue jusqu'à la moelle et donc mûre pour le jugement. Je continue. Le Seigneur me demanda, « As-tu vu, fils de l'homme, ce que les responsables du peuple d'Israël font en cachette, chacun dans l'obscurité, chacun dans la chambre de son idole, car ils se disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a quitté le pays. » Ce qu'Ézéchiel observe en cet endroit n'est qu'un exemple de ce qui se passe dans les autres pièces annexes au sanctuaire et dans les appartements privés des chefs du peuple. Ceci se justifie en disant, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a quitté le pays. Aujourd'hui, c'est à peu près pareil, car bien des gens prétendent que Dieu n'existe pas, mais en réalité, ce qu'ils veulent dire est qu'ils ne les voient pas, que nous n'avons aucune responsabilité à son égard, que nous ne lui devons rien et pouvons, la conscience tranquille, agir comme bon nous semble. Je continue le texte. Et il ajouta, tu vas voir qu'ils commettent des abominations encore plus graves. Il m'emmena à l'entrée de la porte nord du temple de l'Éternel, et je vis des femmes assises là, qui pleuraient la mort du dieu Tammuz. Ici, ce sont les femmes qui se rendent coupables d'idolâtrie. Elles sont assises, ce qui correspond à l'attitude de deuil, et se lamentent bruyamment sur la mort du faux dieu Tammuz, divinité babylonienne, de la végétation. Il s'appelle Adonis chez les Grecs et les Phéniciens. Il était surtout célébré à Byblos, en Phénicie. Dans la mythologie, ce beau jeune homme aimé de Vénus est tué par un sanglier sur les hauteurs du Liban. Ce mythe provient d'un phénomène naturel. En effet, près de Byblos coule une rivière qui descend du Liban, et à la fonte des neiges, l'eau prend une teinte rouge, ce qui provient, dit-on, du sang de Tammuz. Ce dieu symbolise le printemps dont la riche verdure est rapidement brûlée par l'ardeur du soleil d'Orient. Sa mort se célèbre en juin, au moment du solstice d'été, et revêt un caractère funèbre. Des femmes, aux cheveux éparses ou rasés, d'autres se meurtrissant la poitrine, errent dans les rues comme des âmes en peine qui cherchent quelqu'un. Ensuite, elles forment une chapelle ardente et se tiennent assises en cercle autour d'un catafalque sur lequel repose un sarcophage destiné à recevoir la statue en bois peint qui représente le corps de Tammuz. Il est ainsi pleuré pendant plusieurs jours, puis inhumé. Sa renaissance au printemps donne lieu à des réjouissances joyeuses et licencieuses. Ce culte idolâtre a été adopté par les femmes israélites qui poussent l'effronterie jusqu'à le célébrer à l'entrée même du temple de l'Éternel. Je continue. Et il me dit, « As-tu vu, fils d'homme? Tu verras encore d'autres abominations plus graves que celles-ci. » Il m'entraîna vers le parvis intérieur du temple de l'Éternel, et voici qu'à l'entrée de ce temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, j'aperçus environ 25 hommes qui avaient le dos tourné au sanctuaire et se tenaient face à l'Orient. Ils se prosternaient en direction de l'Orient pour adorer le soleil. La troisième forme d'idolâtrie est le culte du soleil, et ce qui la rend si grave est l'identité des hommes qui la pratiquent. Pour commencer, ce sont des prêtres de l'Éternel, car eux seuls ont accès à cette partie du temple. Mais le pire est que ce sont les chefs des 24 classes de prêtres établies par le roi David, avec à leur tête le grand prêtre et souverain sacrificateur. Ils sont tournés vers l'est pour adorer le soleil levant. Un tel culte est évidemment interdit par la loi. La façade du temple étant orientée vers l'est, les prêtres ne peuvent regarder en direction du soleil levant qu'en se plaçant dos au temple. Une attitude qui correspond que trop bien à leur état moral et spirituel. Je continue. Il me demanda, « As-tu vu, fils de l'homme ? La communauté de Juda estime-t-elle donc qu'il n'est pas suffisant de commettre toutes ces abominations auxquelles ils se livrent en ce lieu ? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de leurs actes de violence et qu'ils reviennent sans cesse me provoquer ? Regarde, les voilà qui élèvent le rameau jusqu'au nez. » Cette pratique est liée au culte du soleil. Pendant leur culte, les Perses qui adorent le feu et la lumière ont coutume de porter à la main une poignée de branches de l'arbre sacré. Ils mettent alors ce bouquet devant leur bouche et s'en servent comme amulette pour chasser les mauvais esprits. Une telle cérémonie païenne, célébrée dans le temple, représente le degré suprême de mépris de l'Éternel. C'est comme lui faire un pied de nez. Pour cette raison, cette pratique est la dernière qui est citée. Je finis de lire le chapitre 8. « À mon tour d'agir avec colère, dit l'Éternel. » Je n'aurai pas un regard de pitié, je serai sans merci. Ils auront beau crier à tue-tête vers moi, je ne les écouterai pas. Ce cumul d'idolâtrie babylonienne, égyptienne, phénicienne et perse, qui se donne rendez-vous dans le temple même de Jérusalem, justifie la sentence de jugement qui clôt ce tableau consternant. Cela dit, il m'est trop facile de jeter la pierre aux Israélites coupables, car entre vous et moi, je devrais d'abord la jeter sur mes propres idoles.